Bienvenue dans cette nouvelle édition de Sporama, le sport à l'heure des grands rendez-vous. Nous faisons le point sur les moments forts du sport, avec des compétitions qui chauffent les terrains et des stars qui régalent les fans. Ce soir, nous parlons des grandes compétitions européennes avec les barrages retour de la Ligue des Champions, de l'ascension des jeunes talents africains au tournoi Unifac, sans oublier le retour de Neymar au Santos et Novak Djokovic à Doha, bien sûr le All-Star Game en NBA ici aux États-Unis. Entre football, basketball, tennis et plus encore, restez avec nous pour des analyses percutantes et des discussions sur les derniers résultats avec nos consultants sportifs Amine Biroko Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Jules Valentin Gouet, bonsoir Jules.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Amédine Si, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Élisée Ungpatine au Bénin, bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Merci Georges et Léonard Sagnon assurent la réalisation de cette édition et dans ce studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington DC. Eric Manilakiza au micro. Amine Birouk, je commence avec vous. Le premier tournoi des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026 est lancé. Les équipes se battent pour obtenir leur place parmi l'élite du football féminin africain. Comment voyez-vous l'impact du Maroc sur l'édition 2026 de la CAN féminine en tant que pays hôte? Est-ce un avantage décisif?
L'avantage décisif, mais il faudra déjà anticiper parce qu'il y aura déjà une CAN en 2025 au Maroc, une CAN féminine du 6 au 27 juillet. C'est-à-dire que la CAN féminine n'a pas trouvé preneur et que le seul Maroc s'est porté candidat volontaire pour pouvoir l'organiser trois fois d'affilée. Est-ce dire que le football en Afrique sur le plan féminin n'intéresse plus personne, qu'organiser la compétition est plus une charge et donc des dépenses pour les pays qui seraient tentés d'organiser des compétitions continentales? C'est une question. Est-ce que le football féminin ne draine pas assez de recettes, ni d'intérêt des sponsors de la part des annonceurs des pays potentiellement organisateurs? C'est une question qu'il faudrait se poser avant bien évidemment d'aller sur la réalité du terrain. Mais ce qui est certain, c'est que le Maroc est à la pointe du développement du football féminin, qu'il y a un travail structurel et de professionnalisation qui a été fait en matière de gouvernance également. Les résultats se reflètent au niveau des équipes nationales, non seulement des équipes nationales seniors, mais également des catégories U17 et U20. Et aujourd'hui, s'il y a un pays qui s'intéresse au football féminin et qui est preneur pour toute compétition, c'est bien le Maroc. On l'a vu en 2022 lors de la CAN qui s'était déroulée à Rabat et à Casablanca. On le verra cet été à partir du 6 juillet prochain et on le verra en 2026 pour la troisième édition consécutive.
Merci Amine. Le tournoi Unifac U17 a démarré en force avec des victoires impressionnantes, notamment celle du Cameroun face à la République centrafricaine. Les équipes sont déjà sous pression avec les qualifications pour la CAN U17 en ligne de mire. Élisée, comment analysez-vous la performance impressionnante du Cameroun face à la RCA avec cette victoire de 9 à 0?
Ouais, et un match qui, après cette éclatante ou démonstration de force des Camerounais, a créé d'autres problèmes dans les coulisses où les Centrafricains ont jugé que bon, les Camerounais ne remplissent pas forcément les conditions, que bon, vous voyez, quand ça arrive souvent, surtout au niveau des moins de 17 ans, il y a un problème de URM qu'il faut régler, puisque là, ça tire de tous les côtés où on dit bon voilà, tel joueur le remplit et pas nécessairement les conditions. Donc, en tout cas, sur le terrain, les Camerounais se sont bien comportés en signant cette nette victoire dès l'entame, 9-0 contre la République centrafricaine. Il faut se rappeler que ces mêmes Camerounais ont été, en tout cas, un peu plus gros, et les Centrafricains ont éliminé les Camerounais pour le tournoi de Chan en se qualifiant pour la première fois de leur histoire. Donc, c'est une revanche pour les Camerounais. Les petits frères ont vengé leurs grands frères en infligeant un 9-0 à ces Centrafricains dans ce tournoi de la zone Unifac, il faut le dire, puisque la RDC aussi a bien commencé le tournoi en battant à son tour le Gabon. Donc, et deux places leur réservées après le tirage au sort, puisque ce tirage a eu lieu du côté du Caire en Égypte, où les deux qualifiés, en tout cas le premier de ce tournoi, va se retrouver dans le groupe B en compagnie du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. La seconde équipe qui va se classer en deuxième position sera logé dans la poule D avec le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, donc, c'est déjà un tournoi qui est qualificatif pour la Coupe du Monde qui aura lieu quand même du côté de la Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar. Donc il faudra se battre nécessairement et c'est la dernière zone qui n'a pas encore livré ses qualifiés. Donc c'est cette zone UNIFAC. Donc tout a commencé ce week-end et le Cameroun a bien commencé le tournoi avec la différence de but marqué. Donc plus 9 déjà au compteur. Et il faut dire simplement que les Camerounais auront la chance de finir en tête pour prendre la première place de cette zone-là afin de se loger dans la poule B. Donc Eric, rapidement pour les deux autres groupes, dans le groupe A, nous avons le Maroc pays organisateur, il y a l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, et puis le groupe C composé du Sénégal, champion en titre, la Gambie, Somalie et puis la Tunisie.
Amédine, à votre avis, quels sont les éléments clés du succès des U17 camerounais dans ce tournoi? Amédine,
Oui,
vous...
je sais que le Cameroun est un pays de football. Le Cameroun a toujours fourni de grands joueurs. Et sur le plan des petites catégories, ils sont en train également de faire un bon travail. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que Élisée vient de dire. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais perdants. Ce n'est pas normal quand une équipe perd, on parle de l'âge des joueurs. On ne peut pas regarder un joueur comme ça et dire qu'il est âgé ou pas. Non, il faut qu'on arrête ça. La CAF est en train quand même de faire des efforts par rapport au niveau des contrôles de tout ça. À chaque compétition, peut-être les compétitions zonales, on peut les passer, mais au niveau des compétitions internationales, à chaque fois, il y a des tests et beaucoup de joueurs ne se qualifient pas pour disputer ces compétitions. Cela veut tout dire. Tout simplement que la CAF est en train quand même de faire des nombreux efforts par rapport à ces compétitions de jeunes. Comment faire pour que les gens puissent aligner vraiment des jeunes de leur catégorie. Mais pour revenir au Cameroun, je pense que c'est normal. C'est un pays de football. Ils ont de très bons joueurs. Ils sont en train de faire des efforts au niveau des petites catégories. Donc ce sont les résultats, ce sont les fruits de ces résultats, Eric.
Amine, comment évaluez-vous les chances du Gabon et de la République centrafricaine de se qualifier pour la prochaine CAN U17?
Avec cette défaite, la République centrafricaine a un peu compromis ses chances. Surtout que le goal average est important, 9 buts d'écart. Ça veut dire que les prochains matchs ou le prochain match sera déjà décisif. A priori, le Gabon a toutes ses chances de concurrencer le Cameroun, même si ça se déroule à Douala, dans un stade annexe du stade de la réunification, même si tous les atouts sont dans les mains des Lyonceaux indomptables. A priori, il y a un avantage par rapport au Cameroun. Il y a deux places qui sont en jeu dans cette zone et on verra dans quelle mesure les Gabonais seront capables de tirer leur épingle du jeu, notamment lors de l'affrontement direct face à la République centrafricaine.
Jules, la RDC semble solide avec sa victoire contre le Gabon. Croyez-vous qu'ils peuvent rivaliser avec les grandes équipes africaines dans cette compétition?
Oui, mais il faut dire que dans une compétition comme la compétition des U17, et donc compétition des jeunes actuellement, ce n'est plus le hasard où on allait chercher les footballeurs sur les aires de jeu ou à la plage. Là, ce sont les écoles de football. Alors vous voyez, les jeunes sont préparés comme les adultes dans ces écoles de football. Physiquement, ils sont au point. D'ailleurs, quand vous remarquerez que leur physique rappelle celui des joueurs déjà aboutis qui sont dans les catégories supérieures, il n'y a que le visage qui fait la différence. Donc ça, c'est la préparation. Donc ceux qui viennent là-bas par aventure, juste en ramassant les élèves dans un lycée, et ceci, cela, non, ils n'ont aucune chance. Donc là, il faut le dire, dans cette phase préparatoire qui est en train de se dérouler, le Cameroun et la RDC, qui sont à ce niveau-là, en avance sur les autres, je crois qu'ils vont se distinguer très clairement et que les autres n'auront qu'à prendre ces exemples-là pour préparer dans le futur des compétitions pareilles.
Merci à Jules pour toutes ces précisions. On va prendre, disons, 45 minutes 45 secondes plutôt pour chaque question. Il nous reste beaucoup de sujets à aborder dans cette édition de Sporama. Le tirage sort des Cannes U17, U20 et futsal féminin a eu lieu avec des groupes qui promettent du spectacle. Des équipes sont prêtes à se défier pour décrocher leur ticket pour les grandes compétitions à venir. Jules, en 45 secondes, le groupe de l'Ouganda est-il trop relevé ou croyez-vous que cette équipe a les armes pour surprendre?
Oui, il faut dire que dans cette catégorie, ce sont les pays qui sont en pleine progression, qui ont le plus souvent moins de pression, qui nous apportent la nouveauté, donc la créativité également. Donc nous aurons des oppositions, des styles, toutes les équipes auront leur chance.
Amédine, quels sont les points forts de la sélection ougandaise qui peuvent les aider face à des adversaires comme le Maroc ou la Tanzanie, en 45 secondes?
Je ne sais pas concernant l'Ouganda. Déjà, le fait de se qualifier pour une CAN, c'est déjà une bonne chose pour ce pays qu'on ne distingue pas au niveau du football des jeunes. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut savoir qu'il y a des équipes comme le Maroc qui vont partir avec largement la faveur des pronostics. Il y a aussi le Sénégal qui est le détenteur du titre. Ne l'oubliez pas, le Sénégal est détenteur du titre au niveau des U17 comme au niveau des U20. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Sénégal fera tout pour conserver son titre. Mais attention, parce qu'au niveau des U20, il y a quand même la Côte d'Ivoire qui accueille quand même le tournoi. Et au niveau des U17, il y a aussi le Maroc. Donc ce sont des potentiels favoris. Mais concernant l'Ouganda, je pense que déjà le fait de se qualifier pour la grande messe du football continental au niveau de cette catégorie est déjà une bonne chose, Eric.
Élisée, comment évaluez-vous la préparation de l'Ouganda pour cette Coupe d'Afrique en comparaison avec d'autres équipes en 45 secondes?
Comme je l'ai déjà dit dès le début, l'enjeu c'est bien sûr de se qualifier pour le mondial qui aura lieu au Qatar du 5 au 27 novembre prochain. Donc il faudra tout faire pour être parmi les équipes qui seront qualifiées, puisque l'Afrique aura un nombre constant cette année. Donc c'est au-delà de plus de 5 places. Donc je vais vous dire que il faudra tout faire pour faire partie des 10 premiers de cette compétition. Donc cette sélection ougandaise a quand même les armes pour pouvoir décrocher l'une des 10 premières places et après de valider son ticket pour le mondial. Maintenant, tout passe par la qualification pour le second tour. Donc, dans ce groupe, ça s'annonce très compliqué, Eric pour le dire, très compliqué devant le pays hôte, la Zambie qui, quand même, fait un travail remarquable au niveau des catégories d'âge. Et n'oublions pas aussi la Tanzanie qui a commencé par abattre un travail sérieux quand il s'agit du football sur le continent africain.
Amine, quelle équipe, selon vous, pourrait être une surprise dans ce groupe particulièrement difficile, en 45 secondes?
Déjà, c'est une compétition qui se déroulera hors date FIFA, donc beaucoup d'équipes ne pourront pas compter sur des joueurs évoluant dans des clubs ou dans des centres de formation européens. Voilà. Deuxième chose, on se rappelle que c'est une... compétition à 16. Donc, les deux premiers de chaque groupe passeront directement au quart de finale. Les meilleurs troisièmes disputeront des matchs barrages. Donc, a priori, dans ce groupe, en tête le Maroc et on retrouvera une lutte et la Tanzanie.
Merci, Amine. On vous a perdu un tout petit peu et pour quelques secondes. Voilà. Nous allons observer une petite pause pour continuer nos discussions dans Sporama. Voilà, les barrages retour de la Ligue des Champions sont sur le point de démarrer. Des rencontres palpitantes comme Real Madrid-Manchester City et PSG-Brest attireront tous les regards cette semaine. Amine, en 45 secondes, quel match de ce tour des barrages retour vous semble le plus incertain et pourquoi?
Le plus incertain, certainement encore une fois. le remake de Real Madrid-Manchester City. Si les Madrilènes sont allés gagner à Manchester 3-2, qui garantit un sursaut d'orgueil de la part de Manchester City, blessé dans son amour propre, d'autant plus que la règle du but à l'extérieur ne compte en double n'existe plus. Il y aura également le match entre le PSG et le Milan C, et on verra aussi dans quelle mesure l'équipe de la Juventus est PSV Eindhoven, et dans quelle mesure le Milan C va pouvoir faire une remontada contre Feyenoord. Voilà, c'est des rencontres indécises où tout est possible, bien évidemment.
Jules, le Real Madrid a-t-il déjà fait le plus difficile contre Manchester City ou faut-il s'attendre à une surprise?
Non, on ne peut pas parler de surprise. Ce sont des équipes de valeur égale et tout se joue sur le coaching et du moins sur des petits détails. Les petits détails peuvent changer le résultat d'une rencontre. En 3-4 minutes, vous voyez que le score est différent et finalement, l'équipe qui pensait gagner facilement le match se retrouve sous pression. Donc, rien n'est fait. Rien n'est fait avec des équipes de ce niveau-là et tout peut basculer. Mais on peut dire 60% pour le Real et 40% pour Manchester City.
À Médine, PSG a une avance confortable contre Brest, mais qu'est-ce qui pourrait surprendre au Parc des Princes?
Bon, je pense que c'est pratiquement gagnant pour le PSG qui a validé presque sa qualification après cette manche allégée au Stade Rudelot de Guingamp où les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-0. C'était un match à l'extérieur. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu de match à l'extérieur depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol. Cela veut dire ce que cela veut dire. Mais comme on est en football, on reste toujours prudent. Mais on peut dire que 99% le Paris Saint-Germain a déjà validé son ticket pour les quarts de finale, pour les huitièmes de finale, autant pour moi, parce que ce sont les matchs de barrage. Maintenant, il faut le dire, c'est un match d'adieu, de revoir pour ces Brestois, hein. Ces Brestois qui ont été phénoménal durant cette compétition, parce que Brest, c'est une petite équipe au niveau de la Ligue française. D'ailleurs, c'est pourquoi même ils ne peuvent même pas recevoir chez eux. Ils se déplacent jusqu'à Guingamp pour recevoir. En tout cas, ce sera un match d'adieu, un match de revoir. Les supporters brestois vont se déplacer au Parc des Princes pour fêter et la qualification du Paris Saint-Germain, mais aussi également le dernier match en Ligue des Champions de ces Brestois, de ces Bretons, qui ont été phénoménal durant cette compétition, Eric.
Élisée, avec les matchs à domicile, quel club, selon vous, a le plus de pression pour aller chercher la qualification?
Pour les matchs à domicile, eh bien, il faut le dire, hein, puisque le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund ont déjà presque leur billet en poche maintenant. Pour le reste, le Real pourra gérer son avance, même si c'est une victoire à l'aller, et puis que les règles du but marqué à l'extérieur n'existent plus. Donc, le Real pourra quand même gérer ce match retour. Mais attention à ce Manchester qui peut quand même renverser la situation. Maintenant, le PSV Eindhoven quand même aussi a un but à remonter avant de penser à prendre l'avantage. Donc, en tout cas, tout reste ouvert pour ces barrages retour, hormis le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund. Tous les autres matchs restent ouverts, il faut le dire simplement, et ça va se jouer quand même demain et après-demain.
Alors, le canonnier de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions, Guirassy, est sur une lancée impressionnante avec Dortmund, bien qu'absent de la CAN 2025, qui rêve de briller lors de la Coupe du Monde des clubs. Jules, quels sont les points forts qui font de Guirassy l'un des meilleurs attaquants européens? En 30 secondes.
Oui, mais le premier point fort, c'est qu'il joue dans une équipe joueuse et qui joue pour lui. Et donc, il prépare les actions pour lui. Dortmund a toujours été une équipe joueuse comme Barcelone. Donc, il suffit qu'il y ait un pointeur et qui sait se placer et qui en veut pour que celui-ci ait des chances de briller. C'est le cas donc pour Guirassy actuellement.
Alors, Guirassy est tellement en forme que même les filets de la Ligue des Champions lui disent merci à chaque tir. Guirassy pourrait-il être l'une des révélations de la saison en Ligue des Champions cette année, en 30 secondes?
Oui, certainement, c'est le meilleur buteur de son club. Un club qui ne jouera sur un seul tableau, parce que Dortmund est quasiment out de la course à l'Europe via la Bundesliga. Une 11e place, donc tous les œufs, il faudra les mettre dans le même panier et jouer pour l'homme qui peut décanter la situation et faire la différence. Et cet homme-là, désormais sur les bords de la Roue, s'appelle Chiro Guirassy et il est guinéen.
Alors, Neymar retrouve le chemin des filets après des mois de galère. Neymar marque enfin son premier but depuis son retour à Santos. Un soulagement après des critiques sur son niveau de jeu. À Médine, en 30 secondes, à 33 ans, Neymar peut-il encore espérer jouer au plus haut niveau européen ou son avenir est-il désormais en Amérique du Sud?
Oui, son avenir est en Amérique du Sud, il faut le dire. Il ne peut plus jouer au niveau quand même des clubs européens. Ça, c'est clair, net et limpide. Déjà, en Arabie Saoudite, ça a été un flop, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a les blessures, une série de blessures qui expliquent quand même son effet au niveau du championnat saoudien. Mais maintenant, comme il est retourné au Brésil, c'est chez lui, il est vraiment aimé et adulé là-bas. Parce que Neymar a débuté à 17 ans là-bas. Il a tout fait au niveau du championnat brésilien. Maintenant, il est chez lui, il a ses repères. Il n'a qu'à bien terminer sa carrière au niveau de ses proches. Mais pour un retour au niveau des championnats européens, je pense que c'est quasi impossible, Eric.
Merci, Élisée. En 30 secondes, malgré son retour et sa première victoire, le Santos peut-il compter sur Neymar pour leur succès cette saison?
Pour le succès cette saison, ça va être un peu compliqué puisque vous le savez très bien, il y a déjà des clubs qui se sont illustrés, notamment le Botafogo, les Corinthians qui sont déjà en avance au classement. C'est vrai que il reste le tournoi de l'ouverture, économiquement appelé là-bas les playoffs. Donc vous imaginez, donc Neymar sera un pion de plus pour cette équipe. C'est vrai qu'il n'a plus les jambes de 17 ans, il n'a plus cette vivacité là qu'on connaissait de lui. Il a connu une saison très difficile en Arabie Saoudite, il est revenu à la maison. C'est vrai que bon, il pourra apporter un de plus, mais aller jouer le titre de champion, ça va être un peu compliqué puisque Neymar n'est pas au mieux de sa forme à 100%.
Neymar a marqué à Santos parce qu'il pensait que c'était une soirée de retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, mais les défenseurs, eux, n'étaient pas au courant. On va parler tennis après sa blessure à la cuisse. Comment jugez-vous le retour de Djokovic à Doha en double avec Verdasco? Jude, en 30 secondes.
Oui, mais Djokovic en double, c'est surtout pour le spectacle. C'est surtout pour le spectacle, pour les spectateurs, pour le bonheur des spectateurs. Mais Djokovic attend le 25e titre en Grand Chelem. Donc tout le reste n'est que bonus pour lui. À 38 ans, il a tout gagné.
Élisée, à 37 ans, Djokovic est-il toujours un prétendant légitime au titre du 100e titre? Où les jeunes peuvent-ils prendre le relais?
Ah ben les jeunes ont commencé déjà à prendre le relais. On se souvient de son dernier tournoi du côté de l'Australie où il n'a pas pu finir la compétition. Physiquement, il a commencé par laisser des carences. Donc vous voyez, Novak Djokovic a réalisé quand même des choses extraordinaires dans cette discipline. À part Roger Federer ou encore Rafael Nadal, vous imaginez, c'est pratiquement le troisième homme puissant du lance tennis. Donc aujourd'hui. Et physiquement, il ne tient plus. C'est pour ça qu'on peut simplement dire que les jeunes ont déjà pris le relais.
Merci, Amédine. En 30 secondes, All-Star Game. Wembanyama, malgré ses belles prestations, il n'a pas gagné la finale. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tournoi,
Amédine? D'abord.
Amédine. Nous avons perdu Amédine. Amine Birouk, vous avez suivi le All-Star Game, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez aimé des anciens gagnants?
Le nouveau format, plus spectaculaire, plus court, plus intense. J'aimais aussi voir les vieux, entre guillemets, l'équipe de Shaquille O'Neal, et battre des joueurs beaucoup plus jeunes. Ça veut dire que le métier, l'expérience, le talent sont chez des joueurs comme Stephen Curry, qui a été élu MVP, prophète en son pays du côté de la baie de San Francisco.
Et King James, qui a été le grand absent. Amine.
King James qui a loupé le premier All-Star Game depuis 21 ans. Petite blessure, mais je suppose que le public va se régaler du côté des Lakers avec la nouvelle association, avec le Slovène Luka Doncic, un joueur exceptionnel qui vient des Mavericks de Dallas.
Merci beaucoup Amine Birouk, Jules Valentin Gouet, Amédine Si, Élisée Onkpatine. C'était Sporama, Eric Manilakiza avec vous au micro. Georges Léonard Sagno assurait la réalisation et Hélène qui vient de reprendre le flambeau pour gérer le son. Merci à vous tous. Au revoir.